Aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous entretenir d'un personnage terrible de la foi, qui est le diable. Le diable apparaît en fait assez peu dans le Nouveau Testament. Néanmoins, en voici deux endroits qui me semblent très importants pour comprendre qui il est et comment il agit dans ce monde. Le premier se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16, à partir du verset 15. Il s'agit d'un autre passage où l'on entend parler du diable dans cette parabole de l'ivraie en Matthieu 13, 24 et suivant. Le concept de diable est un concept à la fois bien utile et en même temps bien dangereux. Et la question est complexe parce que, d'une part, la Bible a passé son temps à lutter contre la croyance au diable, mais d'un autre côté, la Bible a aussi beaucoup parlé du diable. Quand je dis que la Bible a passé son temps à lutter contre la croyance au diable, c'est qu'effectivement, dans l'Antiquité, à ce moment-là, la religion qui prédominait était, en fin de compte, ce qu'on appelle un certain dualisme. C'est-à-dire, il y a un Dieu bon, il y a un Dieu mauvais, il y a le bon Dieu et il y a le diable, et puis eux se bagarrent et se bataillent, et le monde est une sorte de champ de bataille entre Dieu et le diable. Et donc, la Bible a passé son temps à essayer de lutter pour le monothéisme, en disant « il n'y a pas de Dieu mauvais, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de force du mal, il n'y a pas de puissance céleste ou cosmique du mal, il n'y a qu'un seul Dieu qui est la source de tout, l'origine de tout, le créateur de tout, et ce seul Dieu est bon. » Et pourtant, la Bible parle du mal, et il parle du diable. Pourquoi donc? Eh bien parce que, je crois que ce concept de diable est d'abord bien utile. Il est bien utile parce qu'il peut permettre d'attribuer à quelqu'un d'autre qu'à Dieu le mal qui est dans le monde. Et en effet, je crois que le diable, pour la Bible en général, c'est une façon un peu commode de désigner toutes les origines plus ou moins indistinctes du mal. Or, il est vrai qu'il y a du mal dans le monde. Le problème, c'est quelle est l'origine du mal? Et là, je veux bien qu'on parle un peu du diable. Parce que si l'on parle du diable, c'est bien pour dire « Dieu n'est en aucune sorte à l'origine du mal. Dieu n'est que source de bien, Dieu n'est que source de vie, Dieu n'est que source de paix, de joie, de construction et de création. Et s'il y a du mal dans le monde, trouvez qui vous voulez comme responsable, mais pas Dieu. » En un sens, certains chrétiens ferait mieux de croire un peu plus au diable. Quand on entend dire « Ah, le tsunami, c'est Dieu qui l'a voulu » ou quand les gens disent « Dieu a voulu que mon enfant meure » ou des choses comme ça, je dirais « J'aimerais mieux que ces gens-là soient dualistes et qu'ils disent clairement « C'est le diable qui a envoyé le tsunami » ou « C'est le diable qui a tué mon fils » mais qu'ils gardent dans l'idée que Dieu est bon. Comment voulez-vous croire dans un Dieu qui tuerait vos enfants ? Dans un Dieu qui enverrait des catastrophes naturelles, dans un Dieu qui aurait la malignité d'inventer des maladies transmissibles, des maladies génétiques et toutes ces horreurs. C'est impossible de croire dans un Dieu qui ferait tout ce mal. Par conséquent, j'aimerais encore mieux être dualiste que de croire dans un Dieu qui serait la source de tout. Mais d'un autre côté, croire dans une sorte de dualisme et croire trop dans le diable, ça n'est pas très bon non plus. Et je crois que c'est assez dangereux, parce que si l'on est dualiste, si l'on a deux dieux, alors ça entraîne toute une conception à la fois du monde, de notre vie, de notre façon d'être dans le monde, qui est, je crois, assez mauvaise. Parce que du coup, le monde ne devient qu'un champ de bataille entre Dieu et le diable, et puis nous, de quoi devrions-nous nous préoccuper? Eh bien, nous devrions aussi nous préoccuper du diable, en quelque sorte. Alors que ce que je vois, moi, dans ces textes du Nouveau Testament, c'est Jésus qui dit, en fait, ne vous préoccupez pas du diable, préoccupez-vous uniquement de Dieu. Et ça, c'est un petit peu le sens, c'est un petit peu le sens, baissez un peu là, c'est un petit peu le sens de cette parabole de l'ivraie. Alors donc, le christianisme, c'est un monothéisme strict. C'est comme ça. Il dit qu'il y a un seul principe actif, c'est Dieu. C'est ce qu'on appelle, en termes techniques, la monarchie de Dieu. C'est pas que Dieu soit un roi, mais c'est que, en grec, ça vient de monos seul et arché, le principe. Il y a un seul principe dans le monde, c'est Dieu lui-même. Alors certes, il existe du mal, et donc la question est de savoir d'où vient ce mal, s'il y a un seul principe bon dans la création. À cela, je crois que cette parabole de l'ivraie est assez intéressante parce qu'elle nous donne les deux réponses sur ce qu'est l'origine du mal. La première chose, c'est que il dit, voilà, il y a du mal, Dieu fait que du bien, et puis il se trouve qu'il y a du mal là-dedans. Alors d'où vient-il? Là, la réponse dans la parabole n'est pas très claire, mais moi, ce que je crois, c'est qu'il y a une part de mal dans le monde qui vient de, je dirais, du hasard, qui vient du fait que la création a ses propres règles, que le monde, plutôt, a ses propres règles, et que la création n'est pas finie. Elle n'est pas parfaite. Non pas qu'elle ait été mal faite, mais en un sens, elle est en cours. Et par conséquent, il y a encore des choses qui ne fonctionnent pas très bien dans le monde. Ou alors, on peut dire qu'après tout, c'est le cours du monde. Il y a des tremblements de terre, et en soi, ce n'est pas une catastrophe. Ce qui est problématique, c'est que ça tue des gens. Ça encore, ce n'est pas une catastrophe. Il faut bien mourir un jour. Ce qui est problématique, c'est que ça fasse souffrir des gens. Donc là, il y a une difficulté. C'est que le mal, en fait, ne vient que de l'existence de l'homme. C'est-à-dire que dans un monde sans vie, il n'y a ni bien ni mal. Le mal, c'est uniquement la souffrance de l'homme. Et le mal, c'est lorsque moi, je ressens mal ce qui se passe dans le monde. Mais après tout, le monde a ses propres lois et ça fonctionne pas mal. Enfin, il évolue tout à fait correctement. On n'est pas forcé de penser que le monde soit mauvais, pervers et tout ça. Donc je dirais qu'il y a une première source de mal, qui est le fait que le mal est un je dirais, la pesanteur de la création. C'est en quelque sorte l'inertie de la création. Je crois qu'il y a effectivement s'il y a des forces du mal dans le monde, ce ne sont que des forces inertes, que des forces d'inertie. Et c'est en ce sens que je ne crois pas au diable. C'est que je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne organiser le mal. Je ne crois pas qu'il y ait une puissance, une intelligence ou un projet maléfique dans le monde. Je ne crois pas qu'il y ait un être malin qui vienne faire exprès d'envoyer un tremblement de terre ici, une maladie là, un accident à tel endroit. Mais les accidents, c'est comme ça, c'est le cours du monde. Les maladies, eh bien il en faut, les maladies font partie de la possibilité que l'espèce évolue. De même pour les malformations. Et par conséquent, je crois qu'il y a du mal, mais que le sens même de ce mal que nous subissons est de l'ordre du hasard, c'est-à-dire du non-sens, de l'ordre du désordre. Et par conséquent, il n'y a pas, pour moi, d'origine ou d'explication au mal. Le mal, par définition, c'est l'absurde. Pourquoi un tel a-t-il pris, il a pris un avion 10 minutes avant celui qu'il devait prendre et il est mort? Parce que l'avion s'est écrasé. Pourquoi l'autre qui était à tel endroit a raté son avion et le prend l'avion d'après et il est vivant? C'est le hasard, c'est comme ça, c'est injuste, mais le mal est injuste, non pas que quelqu'un essaye d'organiser l'injustice, mais en ce sens que le mal est sans projet, qu'il est parfaitement hasardeux et totalement absurde en soi. Et par conséquent, je crois qu'il y a dans le monde un seul principe qui est Dieu, qui est la vie, l'organisation, le projet, la volonté, et le reste, ce n'est pas quelque chose de positif, ce n'est que la négation de ce positif. Il y a de la vie, eh bien la non-vie, c'est la mort. Mais la mort n'est rien. Il y a des chances, il y a des joies, il y a des choses positives, de l'organisation, eh bien l'absence de ça, c'est le mal. Vous savez qu'un grand théologien comme Thomas d'Aquin, lui, définissait le mal comme étant la privation de bien. C'était une façon astucieuse pour dire, dans le fond, il n'y a pas de mal, il n'y a que de l'absence de bien. Et un autre grand théologien protestant, celui-là, qui était Wilfred Monod, a écrit un livre très volumineux en 3 volumes, qui s'appelait « Le problème du bien », en disant « La question n'est pas tellement celle de l'existence du mal, la question c'est comment expliquer qu'il y ait l'existence du bien ». La question n'est pas tellement de savoir pourquoi des fois un enfant meurt à la naissance, mais la question extraordinaire, c'est comment se fait-il qu'il y ait des millions d'enfants qui arrivent à survivre à cette chose-là et qui arrivent à naître. C'est ça qui est extraordinaire. Et Thomas n'a pas tort. Si un enfant meurt, après tout, il aurait pu ne jamais vivre, et par conséquent, ce n'est que la négation de sa propre vie. Et ainsi, le mal n'existe que parce qu'il y a du bien. La mort n'existe que parce que la vie préexiste, en quelle sorte, et la destruction n'existe que parce qu'il y a eu quelque chose de construit, la maladie n'existe que parce qu'il existe la santé, et la guerre n'existe que parce qu'il y a une paix possible. Et par conséquent, le diable n'existe que comme l'empreinte négative de cette empreinte positive que Dieu essaye d'imprimer dans le monde. Donc oui, en ce sens, je ne crois pas au diable. Le diable n'a pas de consistance. Le diable, c'est le néant, c'est le rien, c'est l'absurde, ça n'existe pas. Voilà. Et pourtant, oui, il y a bien, on parle du diable. Alors pourquoi ? C'est un terme générique pour désigner tout ce qui est mauvais dans ce monde. Et il y a donc une deuxième source de mal, et celle-là, elle est plus importante. Cette deuxième source de mal possible dans le monde, c'est l'homme. Parce que oui, l'homme peut organiser le mal. Je vous disais tout à l'heure, le mal est aveugle et absurde, et c'est vrai. Les Juifs ne meurent pas plus en accident de voiture que les chrétiens. Pourquoi lui, pas son frère ? C'est comme ça. Par contre, l'homme peut organiser le mal. Et quand Hitler dit « je vais tuer systématiquement tous les Juifs », là, il est vraiment un diable. Parce que l'homme, lui, peut s'opposer volontairement au projet créateur de Dieu. Finalement, la seule opposition possible, organisée et volontaire à Dieu, elle est en nous. Elle est dans notre liberté et elle est en l'homme. Et ça, on le voit assez souvent dans l'Écriture. Dans la parabole de l'ivraie, Jésus dit « Bon Dieu sème le bon grain et il y a un homme ennemi qui plante le mauvais grain dans le champ. » Un homme ennemi. Oui, peut-être que l'ennemi essentiel de Dieu, plus que la nature et les choses comme ça, c'est l'homme lui-même. Et je crois que les guerres font plus de morts que les catastrophes naturelles. Et puis, autre passage, par exemple, quand dans cet épisode de Pierre, très curieux, quand Pierre essaye de faire renoncer au Christ à son projet d'aller jusqu'au bout de sa mission, Pierre lui dit « Mais non, tu n'iras pas mourir à Jérusalem, ça ne va pas se passer comme ça. » Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Et ainsi, pour le Christ, le Satan, c'est la pensée de l'homme, mais de l'homme sans Dieu, de l'homme qui se prend pour Dieu. Et en ce sens, cette vieille mythologie qui disait, je crois que ça vient des livres apocryphes de l'Ancien Testament, qui ne sont pas dans les Bibles protestantes, disant que le diable est un ange déchu, que c'est une création de Dieu, qui s'est éloigné de Dieu, etc. Personnellement, je ne crois pas aux anges déchus, mais je crois que mythologiquement, ça n'est pas faux. Le diable, c'est lorsque la création, c'est-à-dire nous, choisissons volontairement de nous couper de Dieu, de nous opposer à lui et de nous en éloigner. Une autre expression concernant, vous savez, le diable, on peut s'interroger aussi sur les noms par lesquels on l'appelle. Donc il y en a un bien connu, c'est diable, c'est souvent dit, ça vient du grec diabolos. Dia, ça veut dire aux quatre coins, et balos, ça vient de baleine, qui veut dire jeter. Donc diabolos, c'est celui qui éparpille, qui jette aux quatre coins, qui casse, en quelque sorte. Et c'est vrai, Dieu organise, il rassemble, il recueille, et le diable, il casse, il jette. C'est-à-dire que c'est l'action de détruire ce qui a été construit. L'autre expression en hébreu, c'est le Satan. Satan, en hébreu, ça veut dire l'accusateur et l'adversaire. L'adversaire, tout ce qui s'oppose à Dieu et à son plan. soit parce qu'il y a des pesanteurs matérielles dans ce monde, sans pensée mauvaise, soit parce qu'il y a une volonté de s'opposer à Dieu qui est l'homme. Et ainsi, je ne crois pas qu'il y ait de diable, en quelque sorte, qui unifierait l'ensemble de l'origine du mal en un seul être, mais je crois qu'il y a du mal dans le monde et que l'éclatement même de ce mal, parce que le diable, en tant qu'éclateur, est pour moi aussi éclaté, que l'éclatement même de ce mal fait qu'il y a un peu partout dans le monde des situations diaboliques. C'est-à-dire que le diable, en fait, on le rencontre sans arrêt, mais ponctuellement. Par exemple, reprenons cette histoire de Jésus avec Pierre. Pierre, à un moment donné, dit à Jésus, « Non, tu ne vas pas aller jusqu'au bout de ta mission, tu n'iras pas à Jérusalem, tu vas échapper à cela. » Et Jésus dit à Pierre, « Arrière de moi, tu es Satan, parce que tu es pour moi une occasion de chute. » Pourtant, Pierre n'est pas l'incarnation de Satan, j'espère bien du moins, parce que juste avant, il dit que c'est sur Pierre qu'est construite l'Église du Christ. Alors notre Église est une Église satanique, si Pierre était l'incarnation de Satan. Mais vous voyez qu'à vraiment, dans deux versets qui se suivent, dans le premier, Pierre est montré comme la pierre et la base de construction de l'Église de Dieu, et juste après, il est Satan. Au début, il est un ange, et un verset après, il est Satan. Ce qui montre que Pierre n'est pas l'incarnation de Satan, mais qu'à ce moment-là donné, il a été pour le Christ un risque d'être l'occasion de chuter, de renoncer à son projet et de dire non au plan de Dieu. Et à ce moment-là, Pierre joue pour lui le rôle d'un Satan ou d'un diable. C'est-à-dire que Pierre, à ce moment-là, s'oppose au projet de Dieu et tente à faire chuter le Christ. Et juste avant, Pierre est un ange. Parce que dans le fond, je ne crois pas beaucoup plus à l'existence des anges matériellement, comme des créatures ailées qui se promèneraient, etc. Mais il y a des situations angéliques. Il y a des moments où quelqu'un, quelque chose, un événement, nous fait comprendre une parole de vie, nous fait grandir, nous fait progresser. Et là, je peux dire, j'ai rencontré un ange. Mais moi-même, je peux être un ange à un moment donné, si je dis une parole qui va faire vivre quelqu'un, une parole qui va peut-être ressusciter quelqu'un, c'est-à-dire le remettre debout, lui redonner confiance. Et peut-être que, même malgré moi, je serai Satan pour un autre, parce que je vais dire une parole qui va le blesser, ou une parole qui va le démotiver, une parole qui va le faire chuter, une parole qui va le faire tomber. Et c'est comme ça. Et donc il y a des événements sataniques, des événements diaboliques, mais tout cela est sans organisation et sans unification, et donc il n'y a pas de diable en tant que personne. La conséquence de ça, c'est que si le diable n'existe pas en quelque sorte, mais que le mal existe, eh bien ça entraîne pour nous la façon avec laquelle nous devons agir dans ce monde. Si le diable était une personne, il faudrait traiter avec lui. En fait, c'est ça. Si vous avez un ennemi, eh bien, il faut le faire venir et discuter avec lui, et essayer de trouver un compromis, quelque chose. Ou alors, il faut l'annihiler, il faut l'écraser totalement, complètement, qu'il n'en reste rien. Mais le diable n'est pas annihilé ni écrasé, et je crois que ce n'est pas demain la veille qu'on y arrivera. Il y aura toujours du mal. Donc, s'il n'y a pas de moyen d'écraser le mal, il faut traiter avec lui. Mais justement, je ne crois pas au diable. Et du coup, je crois que notre existence ne doit pas être mue par l'idée de se dire qu'il faut aller traiter avec le diable, mais plutôt qu'il faut agir autrement. Et là encore, la parabole de l'ivraie nous donne la solution. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a deux choses. Il y a donc d'abord un mal qui est comme ça, et on n'y peut rien, il est là, il est mélangé au bien, et c'est comme ça. Première chose que nous dit le Christ, patience. Vous ne vous précipitez pas pour vous battre contre ça, pour essayer d'exterminer le mal dans le monde, pour exterminer le mal en vous. Le mal est là. Patience. Laissez grandir les choses. Laissez faire le temps. De toute façon, le temps travaille pour Dieu, parce que seul le bien est éternel, seul l'amour a une vraie valeur, et tout le reste, c'est du mensonge, c'est du brouillard, c'est de la paille emportée par le vent, et ça n'est rien. Donc, première chose, patience. Patience, prenez le temps et supportez patiemment ce mal qui existe. Donc oui, nous subissons du mal dans ce monde. Qu'est-ce que je vous dis ? Subissez patiemment. La patience et la persévérance sont des vertus souvent évoquées dans l'Écriture et qui sont même parfois mises au même niveau que l'amour. La patience est une vraie vertu biblique, une vraie vertu évangélique. La patience, savoir dire oui, patience, patience. Il y a des choses qui me contrarient, il y a des difficultés, patience. Et à ceux qui savent patienter, ceux qui savent faire preuve d'espérance, de persévérance, dit l'Apocalypse, on leur donne une couronne de vie. La deuxième chose que nous dit la parabole de l'ivraie, je crois, c'est que, certes, il y a de l'imperfection dans le monde, mais ne tournez pas vos yeux vers ça. Tournez vos yeux plutôt vers Dieu et ayez confiance en Dieu. Et laissez le mal. Finalement, ne vous en préoccupez pas trop. Et je trouve que c'est très nouveau, cette idée. Je ne veux pas dire qu'il ne faut rien faire pour lutter contre le mal. Oui, bien sûr, il faut essayer de guérir les gens qui sont malades. Il faut essayer d'améliorer un peu les choses. Et s'il y a des défauts en vous, essayez de vous corriger. Mais néanmoins, l'attitude profonde et essentielle n'est pas dans ce sens. Il ne s'agit pas de tourner les yeux vers le mal pour s'en rendre malade, mais de tourner les yeux vers le bien, tourner les yeux vers Dieu. Et c'est en ce sens que je milite contre l'existence du diable. Je dis le diable n'est rien, il n'y a qu'un seul Dieu qui est la source et l'objet de ma foi, c'est Dieu. Et donc je tourne mes yeux vers Dieu. Lui seul est l'essentiel, lui seul est l'objet de ma foi, lui seul est Dieu, lui seul est l'éternel. Et le diable, je m'en fiche, je ne le regarde pas, il n'est rien. Je me tourne vers Dieu. Et si je me remplis de Dieu, si j'essaye de progresser, d'aller dans le bon sens, de faire pousser du bon grain, l'ivraie, elle tombera d'elle-même. Et le mal, il sera réduit à rien. Et le mal, il disparaîtra de lui-même. Et le diable s'auto-détruira parce que, c'est un autre verset de la Bible, le diable, s'il ne peut que s'auto-détruire puisqu'il est source de destruction. Se remplir de positif et aller effectivement dans le sens de la vie, plutôt que d'essayer toujours de lutter contre le mal. Quant au mal de l'inertie du monde, bon, finalement, il n'est pas si grave. Il n'est pas si grave parce que le Christ a dit lui-même, vous savez, en Matthieu 10, 28, « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent rien faire pour votre âme. » Oui, effectivement, le mal terrestre est un mal terrestre et passager, et qui est peut-être moins grave que le mal spirituel et essentiel qu'il peut y avoir et contre lequel nous sommes invités à lutter. Parce qu'en fait, la figure la plus dangereuse, c'est le mal de l'homme, le mal, alors qui n'est pas forcément chez mon voisin, mais qui se trouve aussi en moi-même. Et je pense qu'effectivement, cet ennemi de Dieu, il se trouve aussi en moi. Et ça, on le voit très clairement, par exemple, dans les tentations du Christ. C'est très étonnant que le Christ ait été tenté par le diable. Ça prouve que même lui, il y avait en lui cette dimension démoniaque qui tendait à s'opposer à Dieu. Et lui n'a pas échappé à cela. Le diable, en fait, était quand même aussi un petit peu en lui pour essayer de le faire chuter et pour le faire l'éloigner de Dieu. Parce que c'est ça le diable, c'est le tentateur, autre expression, celui qui veut nous faire tomber et nous éloigner de Dieu. Et effectivement, dans un autre endroit, Jean dit que le diable, c'est Satan et que c'est le mensonge, c'est le menteur. C'est tout ce qui nous éloigne du vrai et de l'essentiel, de tout ce qui est créateur et éternel, tout ce qui s'oppose à Dieu. Donc le Christ, lui, dans la tentation, a cette tentation de l'éloignement de Dieu, tentation de ne plus tourner ses regards vers Dieu, mais de les tourner vers autre chose. C'est ça la tentation fondamentale. Et même là-dedans, il va lutter contre. Et pour lutter contre le diable, que va faire le Christ ? Il va à chaque fois se retourner vers Dieu, se retourner vers la parole de Dieu. Il a dit « Oui, tu dis ça, toi, mais Dieu a dit que... » C'est-à-dire que, voilà l'attitude, ne pas tant chercher à lutter contre le diable. Et le Christ n'essaye pas d'étrangler le diable, il n'essaye pas de le rejeter, il n'essaye pas de le tuer. Le Christ ne se bat pas même contre le diable. Quand le diable l'agresse, il se tourne vers Dieu. Quand le mal est là, que je n'essaye pas tant de me raidir contre le mal, que de me tourner vers le bien, vers la vie, vers la paix, vers la joie, vers la lumière et vers Dieu. Et ça, c'est une bonne chose, parce que comme je vous ai dit que Dieu seul est un principe actif, Dieu seul, si on se tourne vers lui, peut nous apporter cette source de joie, de force et de paix. Mais néanmoins, il faut se méfier aussi un peu, parce que j'ai fait un mélange, là, j'ai dit se tourner vers Dieu, se tourner vers la parole et vers la Bible, et on voit dans ces trois tentations qu'il y a aussi le risque de se tourner d'une façon diabolique vers la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un usage possible démoniaque de la Bible, puisque dans l'une des tentations, c'est le diable lui-même qui cite l'Écriture. Et quand il cite l'Écriture, c'est pour la prendre au pied de la lettre. Il dit, voilà, les anges viendront et te porteront sur leurs bras, dont t'as qu'à te jeter du sommet du temple et tu survivras matériellement. Et ce qui montre que même dans la Bible, il y a toujours et partout un danger démoniaque qui se glisse. Ce danger démoniaque, là, c'est de prendre la Bible au pied de la lettre, d'en faire une lecture littérale. Ce danger démoniaque, c'est finalement le fondamentalisme et l'intégrisme. Et peut-être que, effectivement, pour ce point des anges comme pour celui du diable, il est essentiel de comprendre que le diable est une métaphore, que le diable est une image et que la seule réalité essentielle et concrète, c'est Dieu. Et si je dis que je crois en Dieu et que je ne crois pas en diable, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de mal dans le monde, mais c'est que ma foi, elle est en Dieu seul. Et ma foi, elle est en Dieu seul parce que ma foi, c'est ce qui m'oriente, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me tire dans un sens, c'est ma raison d'être et ma raison de vivre. Ma raison de vivre, c'est le bien, c'est la vie, c'est la lumière, c'est la joie. Le mal, la mort et tout ça, laissez-la au diable et allez au diable. Cela disparaîtra avec le reste. Je crois en Dieu qui est éternel et qui, lui, est source éternelle de joie, de vie, de paix pour nous tous, pour le temps et pour l'éternité. Amen.